Ô Christ, la nuit seule fut le témoin de ton relèvement, de ta résurrection. Nous avons chanté cela hier pendant l'exultet. Oui, chers frères et sœurs, la résurrection du Christ est cachée. Elle est dérobée à nos propres yeux. Elle est mystère, comme disait Père Pierre-Marie hier. Car aujourd'hui, que voit Pierre et Jean? Simplement, un tombeau ouvert, vide, un linceul laissé là, affaissé, puis le linge qui avait entouré la tête, sans doute la mentonnière, à côté. On a l'impression que Jean se complaît dans ces détails. Alors pourquoi? Eh bien, chers frères et sœurs, c'est d'une enquête qu'il s'agit, et de pièces à conviction. Les linges mortuaires sont encore là? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que contrairement à la version que voulaient faire croire les prêtres, ce corps n'a pas été volé. Parce que, ben évidemment, les voleurs auraient emporté le corps enveloppé du suaire et de tous ces linges. Et non, un corps est sorti du tombeau, sorti du suaire, non pas comme celui de Lazare, encore lié par les bandelettes. Non, aucun linge qui retienne le Christ. Personne n'a dû le débarrasser de ses bandelettes. Car le corps du Christ, c'est un corps parfaitement libéré, parfaitement libre. Reconnaissons-le, finalement, les hommes, le vendredi saint, avaient bien fini par le faire taire, le rendre incapable de faire le bien, l'immobiliser. Plus de guérison, plus de prédication. Dans sa passion, finalement, il ne peut que subir le mal. Et son corps, c'était comme le signe de sa vulnérabilité, du pouvoir que les hommes avaient sur lui. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu, dit l'Écriture. Le Christ a consenti à être limité, à ne plus pouvoir parler, à être immobile, à ce que de son corps s'échappe peu à peu toute vie, à ce que cesse le mouvement de ses poumons et de son cœur. Il a consenti à la mort. Mais voilà que le troisième jour, c'est la résurrection. Voilà ce corps qui, soudain, renaît en pleine nuit. Eh bien, il s'est échappé du tombeau. Il s'est dérobé à toutes les mains qui ont voulu l'abattre, les volontés qui ont voulu le faire taire. Et voilà qu'à grandes enjambées, il parcourt le monde entier et que plus rien ne l'arrête. Il est comme le soleil, comme un époux qui sort de sa chambre. Il s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux. Il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur, dit le psaume magnifique que les pères ont appliqué au Christ glorieux. Cette liberté que son âme n'a jamais perdue, voilà que maintenant elle habite son corps de gloire. Le Christ, avec son corps, est présent en tout point. Son corps, avant la passion et le mystère pascal, eh bien le limitait en un point donné du globe, en une époque précise. Ses 33 ans de vie, c'est peu. Sous le règne d'Auguste, dans ce petit territoire de Galilée, de Judée, de Samarie, eh bien voilà que ce corps, il est en tout point du monde aujourd'hui. Le signe de tout cela, eh bien l'Eucharistie. C'est l'omniprésence du corps du Christ, un corps qu'on pourrait dire infiniment multiplié pour manifester l'amour de Dieu à tous les hommes, un amour qu'absolument aucune frontière n'arrête. Alors je pensais, frères et sœurs, à un exemple très concret, très contemporain, de cette souveraine liberté de Dieu de se manifester à travers des apparences visibles. nos frères musulmans, dans les pays où domine l'islam, n'ont guère d'occasion de lire une parole de Dieu, de s'entretenir avec des chrétiens même. Eh bien, qu'à cela ne tienne, le corps glorieux du Christ ne s'arrête pas à ces obstacles, se manifeste à eux par des songes et même par des apparitions. Alors ne soyons pas trop vite rationalistes pour pouvoir endiguer par notre étroitesse les initiatives de Dieu. Mais ce corps glorieux, chers frères et sœurs, le Christ ne veut pas le garder pour lui. Il veut nous le donner. Nous le savons bien. Notre corps, ce corps du vieil homme, nous savons bien de quoi il est capable. Disons-le. Notre corps, notre chair, c'est un trou noir. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Une partie de l'espace où une concentration de la masse énergie est si compacte que même la lumière, les photons, ne peuvent se soustraire à son attraction. Autrement dit, c'est une entité qui attire tout à elle, qui ramène tout à elle, et c'est cela, vivre selon les réalités d'en bas dont parle saint Paul. C'est un égoïsme natif. Réputation, jouissance, domination, tout ce qui passe à notre portée, eh bien, nous voulons l'assimiler, le consommer, et parfois même c'est un réflexe qui nous dépasse. C'est cette loi du péché dont parlait saint Paul. Je trouve en moi une autre loi, celle du péché. Hélas, qui me délivrera de ce corps de mort ? Mais voilà ce corps glorieux du ressuscité, voilà que le Christ nous en fait don pour renouveler notre âme et notre chair. C'est le mouvement même du ressuscité, il veut passer en nous, et c'est le mystère de notre baptême. Le Christ nous fait don de cette vie nouvelle, en germe, qui fait dire à saint Paul, « Vous êtes déjà ressuscité ». Bien sûr, c'est dans notre cœur profond que nous le sommes. Mais ce renouvellement, il doit agir comme une radiation. Vous savez bien, il y a quelques années, la centrale de Fukushima a explosé à la suite du tsunami et s'échappait cette radiation que rien ne pouvait arrêter, une radiation de mort. Eh bien, pour nous, c'est une radiation de vie qui est en notre cœur et qui, peu à peu, traverse toutes les strates de notre être, renouvelle les mauvaises tendances de la chair et jusqu'à l'expression de notre visage. On croirait plus à leur sauveur s'ils avaient l'air un peu plus sauvés. Alors comment faire pour que ce renouvellement se propage, pour que ce baptême porte du fruit, que l'énergie du Christ nous soulève ? Frères et sœurs, être vertueux. Alors vous allez dire là, on s'est pas levé de bonne heure, on a péché d'emmener les enfants à la messe pour qu'ils soient à peu près ponctuels, pour qu'on nous parle de vertu, qu'on nous parle d'autre chose. C'est quand même pas très sympathique la vertu. C'est faire beaucoup d'efforts, serrer les dents à l'occasion d'autres parties du corps pour obtenir peu de résultats et au prix de sacrifices de notre plaisir, de notre joie. Alors vive l'immoralité, a-t-on envie de dire. Eh bien, c'est qu'on comprend bien mal la vertu. Les pères de l'Église disaient « La vertu, c'est participer aux énergies mêmes du Christ ressuscité. La vertu vraie, c'est prolonger son humanité. » Alors bien sûr, au prix de ces petites ou grandes Pâques quotidiennes, alors à ce moment-là, oui, la vertu nous attire. C'est l'énergie du ressuscité qui nous travaille. C'est l'expérience que, peu à peu, nous devenons plus dociles aux bonnes impulsions de l'esprit. Et c'est vrai que le bien, nous le faisons avec plus de liberté, plus de joie, plus de facilité. La vertu, c'est finalement l'expérience d'être nous-mêmes ressuscités et d'agir avec la même sublime aisance que le Christ relevé d'entre les morts. Chers frères et sœurs, ce corps ressuscité de notre bien-aimé Seigneur Jésus, il va se donner à nous dans l'Eucharistie. À nous, comme aux disciples d'Emmaüs, qui demandaient au Seigneur de rester avec eux, il va nous offrir de demeurer en nous, au plus intime de notre cœur, pour irradier en nous. Marie fut celle qui a pleinement vécu selon cette vie nouvelle. Qu'elle nous enseigne cette joie de pouvoir mourir chaque jour pour chaque jour ressusciter avec le Christ et avec lui remplir l'univers de la gloire du Père. Amen.